Voilà, ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre du prophète Agée. C'est pas une surprise. Et on va lire le chapitre 2, versets 1 à 9. Il nous restera une prédication sur ce prophète après. Donc, chapitre 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agée. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Alors, il y a un point commun entre la fin du premier chapitre et le début du deuxième. La fin du premier chapitre se termine par une date, le 24e jour du 6e mois, la deuxième année du règne de Darius, et le début du deuxième chapitre commence par une autre date, le 21e jour du 7e mois. Il y a donc un mois et demi à peine entre la fin du premier message d'Agée pour le peuple et le début du deuxième message. On peut se demander pourquoi est-ce que Dieu estime qu'il faille de nouveau parler au peuple un mois et demi après l'avoir encouragé à reconstruire le temple. Qu'est-ce qui a fait que Dieu estime que le peuple avait besoin d'un nouvel encouragement, d'un nouveau message? Eh bien, la clé de la réponse à cette question, elle se trouve au verset 3, dans un mot qui est prononcé par l'Éternel. « Quel est parmi vous, demande Dieu, le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première ?» On a vu dans le premier chapitre qu'il y a eu 70 ans d'écart entre le moment où Nebuchadnezzar a emmené le peuple en captivité et le moment où Cyrus et Darius ont autorisé le peuple à revenir. 70 ans. Et il y avait 50 000 Israélites, on le sait par le livre d'Esdras, qui sont rentrés à ce moment-là. Parmi ces 50 000, sans doute, il y avait beaucoup de jeunes, d'hommes forts, qui étaient en capacité de reconstruire le temple, et c'était sans doute pour eux une grande joie de revenir, ou de venir pour la première fois en Israël. Beaucoup de ceux qui étaient rentrés n'avaient jamais vécu en Israël, ils étaient nés en captivité. Mais il y avait aussi une catégorie d'Israélites qui rentraient, c'était les survivants. Ceux qui restaient, ceux qui étaient encore en vie après l'exil, qui avaient vécu 70 ans en exil et qui rentraient. Ils ne devaient pas être nombreux, mais il y en avait. et ces survivants, ils avaient un sentiment mitigé, parce qu'ils avaient connu la gloire du premier temple, le temple de Salomon. Et je vous rappelle, j'en avais parlé dans un des premiers messages sur Agé, les sages d'Israël disaient « Celui qui n'a jamais vu le temple dans son achèvement n'a jamais vu un édifice magnifique. » Il faudrait des photos, mais on n'en a pas. En tout cas, des gravures du premier temple qui était énorme, qui était une des merveilles du monde à l'époque. Le temple, le premier temple, avait en son sein, en plus, l'arche de l'Alliance de Moïse. Et cette arche avait été prise par Nebuchadnezzar, elle n'était plus présente dans le temple que construisaient les hommes au temps d'Agé. Dans 1 Roi 6, le temple est décrit dans sa construction. On voit que tout est en or, le lieu très saint est couvert d'or. L'autel qui s'y trouvait était couvert d'or. Les chaînettes où passait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint étaient couvertes d'or. Tout était magnifique. Tout brillait dans ce temple. Le second temple paraissait très terne par rapport au premier. Et dans Esdras 3, on va lire ce passage, versets 10 à 13, on lit justement ce contraste de sentiments qui était présent dans le cœur du peuple au moment où ce temple est construit. Esdras 3, versets 10 à 13. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les lévites descendants d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répondaient en louant et célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie et celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin. Il y avait vraiment ce mélange de sentiments parmi le peuple entre ceux qui rentraient et qui se réjouissaient de la construction du temple, les lévites qui célébraient l'Éternel, les trompettes, et puis les plus anciens qui pleuraient parce qu'ils se souvenaient de la gloire passée du temple et qu'ils avaient l'impression que le nouveau temple n'égalait pas l'ancien. Dieu a donc pensé qu'il était bon de s'adresser à ses survivants et de leur donner un message d'encouragement, d'espoir, par rapport aux pleurs, par rapport aux souvenirs qu'ils avaient du temple et de sa gloire passée. Et on va un peu ce matin nous arrêter sur ce message. Le premier enseignement que je retiens de ce message est que le peuple de Dieu, pour vivre dans la joie, le zèle et l'enthousiasme, ne doit pas fixer ses yeux sur le passé, ni même sur le présent, mais sur la fin des choses, le futur. Le passé a pu être glorieux, le présent peut paraître difficile ou modeste, mais ce qui est certain, c'est que le royaume de Dieu pour lequel nous travaillons sera établi, et il sera la réalité dernière et éternelle. C'est pourquoi Dieu donne une vision de la gloire future du temple. Ne regardez pas au présent, ne vous lamentez pas sur ce qui a disparu dans le passé, mais regardez ce qui va devenir. Le royaume de Dieu va s'établir et la cause pour laquelle vous travaillez, même si elle est modeste aujourd'hui, elle va triompher. Le présent n'est pas la norme à laquelle on doit s'attacher, ou le tableau que l'on doit regarder, c'est le devenir, ce que Dieu va faire, ce qu'il va accomplir. Nous travaillons avec le maître de l'univers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais combien de fois ça revient, hein, le maître de l'univers, dans le passage qu'on a lu. Et le maître de l'univers va établir son royaume dans toute sa gloire. C'est une certitude. Les regards du peuple de Dieu ne doivent pas se poser sur ce qui se passe sur terre au moment où il vit, mais dans le futur, lorsque le royaume de Dieu s'établira. Le peuple de Dieu comprendra alors qu'il n'a pas travaillé pour rien, mais qu'il a fait ce qu'il fallait au moment où il était là. Il était là pour rendre témoignage à ce Dieu et lui rendre un culte. D'une certaine façon, ce que nous vivons est prophétique, toujours. Nous sommes en avance par rapport à ce qui va se passer dans le futur, où toutes les nations, finalement, un jour, rendront gloire au Dieu que nous adorons ici, en ce moment, même si nous ne sommes pas nombreux. Dieu est le Dieu des prophètes, c'est ce qu'il est dit aussi ici. Je vous ai parlé par les prophètes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la prophétie des prophètes? Parce que les prophètes sont en quelque sorte des visionnaires. Les prophètes ne vivent pas dans les vallées, ils vivent sur les hauteurs, en quelque sorte. Ils voient loin. Et je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais enfant, dans les Vosges, à 5 km du lieu où j'habitais, il y avait un endroit où nous allions en été, lors de journées de beau temps, quand il faisait très très beau. Cet endroit, c'était une montagne. Et sur cette montagne, il arrivait que lorsque le temps était clair, sans nuages, on puisse voir le Mont Blanc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, depuis les Vosges. Il y avait des centaines de kilomètres entre nous et le Mont Blanc. On le voyait à peine, mais on pouvait le voir. On se doutait qu'entre nous et le Mont Blanc, comme je l'ai dit, il y avait des vallées, des villes, toute une vie qui se déroulait. Mais depuis la hauteur où on se tenait, on voyait le sommet le plus haut de France. Je dirais que les prophètes, ce sont des gens qui vivent sur ces montagnes. Dieu les place sur les hauteurs du temps, de l'histoire, et ils voient loin. Ils voient les choses dans leur aboutissement, dans leur finalité. Ils sont là pour nous encourager, nous qui sommes dans la vallée, parce que nous ne voyons pas la fin, nous n'avons pas toujours la vue d'en haut. Les prophètes nous disent, nous voyons les choses d'en haut, vous êtes en bas. Nous vous disons ce que nous voyons pour que vous vous appropriez cette vision et que vous travailliez par la foi, en ayant la certitude que ce que nous avons vu va se réaliser. C'est là le rôle des prophètes de la parole de Dieu. Nous sommes finalement, nous aussi, dans la même situation que le peuple au temps d'Agé. Nous sommes dans un entre-deux, en quelque sorte, entre un passé qui a pu être glorieux et un futur qui le sera. Mais le présent n'est pas forcément encourageant. Dans le passé, le Seigneur est venu, il nous a rachetés par son sang, il est mort, il est ressuscité, il a fondé son Église, et quand on voit les actes des apôtres, on voit l'œuvre extraordinaire de Dieu qui, en une génération, a saturé l'Empire romain de communautés chrétiennes. Le christianisme s'est répandu très rapidement en quelques générations. Quand nous lisons l'histoire, il y a eu des périodes de réveil extraordinaires où des foules sont entrées dans le royaume de Dieu d'un seul coup. La réforme, les grands réveils du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, dans d'autres régions, comme le Brésil où nous sommes allés, les choses avancent vite, Les communautés grandissent. Même si nous ne vivons pas ces choses, il nous faut persévérer, car la cause que nous servons, le royaume que nous servons, va un jour triompher. C'est ce que nous dit Agée. Réjouissez-vous de ce que vous êtes en avance par rapport à ce que le monde va connaître. Vous servez le roi des rois, celui qui a remporté la victoire. On l'a lu tout à l'heure avec le psaume 110. Même si vous n'êtes pas nombreux, ne pleurez pas sur ce qui a été dans le passé et qui n'est plus peut-être aujourd'hui, mais réjouissez-vous de ce qui va venir demain. Proverbe 29-18 nous dit « Faute de vision, le peuple est sans frein et se laisse aller. » Ce qui nourrit la foi, c'est la vision de la réalité céleste, éternelle, triomphante. La foi que nous avons n'est pas construite sur des belles pensées humaines, des projets humains. Elle est construite sur la venue de Jésus-Christ, sa mort, sa perfection, le fait qu'il a eu ce parcours sans péché, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité, et qu'il est maintenant à la droite du Père, comme nous l'avons lu. Il est le vainqueur. Il a déjà triomphé. Et ce n'est qu'une question de temps, c'est tout, jusqu'à ce que le royaume de Dieu s'établisse et que, comme Jésus l'a dit et comme il nous a demandé de prier, que le règne du Père vienne et que sa volonté un jour soit faite parfaitement sur la terre comme dans les cieux. On va un peu s'arrêter et détailler le message que Agée a reçu justement pour ceux qui pleuraient, les survivants, qui se souvenaient du temple dans le passé. Quel message Dieu leur a-t-il donné? Premier point du message. Agée leur dit, le monde tel qu'il est construit, les grandes nations telles que vous le voyez, les grandes puissances, ce monde-là ne va pas durer, mais il va s'écrouler. C'est le premier point que Dieu dit à Agée, que Agée communique. Je ferai trembler toutes les nations. Je ferai trembler le ciel, la terre, la mer. Une fois encore, et dans peu de temps, il dit. Pour nous, ça paraît long, hein, ce peu de temps. Mais Dieu rappelle ici à travers Agée une réalité. C'est qu'aucun des grands empires de ce monde ne va tenir dans la durée. Et toute l'histoire est déjà là pour témoigner de cela, pour raconter l'histoire de ces empires qui ont à un moment dominé le monde et puis qui se sont écroulés. Les Babyloniens, puissance terrible, ont été renversés par les Mèdes et les Grecs et les Perses, qui eux-mêmes ont été conquis par les Grecs, puis par les Romains. Un après l'autre, les empires s'effondrent. Il y a une vision dans la Bible qui témoigne de cela, c'est dans le livre du prophète Daniel, on ne va pas la lire parce que c'est tout le chapitre 2. Le prophète Daniel, alors qu'il était à Babylone, a reçu de Dieu la vision d'une grande statue. Vous avez peut-être déjà lu cela. Hein ? Une grande statue impressionnante, mais qui avait des pieds d'argile, il est dit, des pieds d'argile. Et dans la vision que Daniel a reçue, il voit une petite pierre se détacher sans l'aide, sans aucune aide extérieure. Cette petite pierre qui arrive du ciel, elle frappe la statue au pied et la statue s'écroule. La pierre se transforme en une grande montagne qui remplit toute la terre, il a dit. Eh bien, cette petite pierre, ce royaume qui vient du ciel, qui paraît infime, ridicule, petite pierre de rien du tout, eh bien, c'est Jésus-Christ qui est venu. Et la venue de Jésus-Christ a sonné, d'une certaine façon, la fin de tous les royaumes et de tous les empires. Dans le psaume Dieu dit, « C'est lui à qui j'ai donné l'héritage des nations. » Il envoie son fils, c'est lui qui l'a oint, pour régner sur le monde. Premier élément donc qu'on doit prendre en compte dans notre foi, c'est que le royaume éternel qui va s'établir, le royaume qui va durer, c'est celui de Jésus-Christ. Tous les autres royaumes vont disparaître. Deuxième élément, l'or et l'argent sont à moi, dit Dieu. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel. Une des raisons, sans doute, des pleurs des survivants, c'est de voir que le temple n'était plus aussi beau qu'avant. Il n'y avait plus cet or qui était là, présent partout. Le temple nouveau ne brillait pas, c'était des pierres brutes. Il était plus petit. Dieu dit, eh bien, le temple un jour va accueillir les trésors de tous les peuples et de toutes les nations. L'or et l'argent m'appartiennent. Ils n'appartiennent pas au peuple. Ils m'appartiennent à moi. Et un jour, toute la richesse du monde sera concentrée dans le nouveau temple que je vais bâtir. La vision est aussi certaine que le Mont Blanc depuis les Vosges. Ça s'accomplira. Agée n'est pas le seul à parler de la reconstruction du temple et de la gloire qui va venir, la gloire des nations et les richesses des nations qui vont y affluer. Dans Ésaïe 2, versets 2 et 3, voici ce que dit Ésaïe. « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il y a cette promesse qu'un jour le temple qui est à Jérusalem sera rebâti, que le Christ y régnera et que les nations apporteront leur adoration à Dieu et leur richesse dans ce temple. Pour l'instant, le temple n'est pas reconstruit. Tous les préparatifs sont là pour qu'il le soit un jour. Mais les prophètes l'ont annoncé, ils ont eu cette vision. Un jour, le temple à Jérusalem accueillera la gloire et les richesses des nations. Au temps où était Agée, où il a annoncé ce message, il y avait un autre prophète qui était avec lui, c'était Zacharie. Et Zacharie a donné beaucoup plus de détails dans son livre qu'Agée. Dans Zacharie 14, versets 16 et 17, il dit « Tous les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. » Alors, il y a 8 choses que Zacharie nous dit ici. La première chose, il dit qu'il y aura un temps où toutes les nations se dresseront contre Jérusalem et le peuple juif pour le détruire. On voit ça dans Zacharie, hein, c'est écrit textuellement. Toutes les nations se lèveront contre Jérusalem. On comprend que tout se cristallise en ce moment autour de Jérusalem, d'Israël, parce que le diable n'est pas intéressé du tout à ce que Jérusalem devienne le centre du monde, et la gloire un jour de Dieu sera visible dans ce lieu. Le diable a essayé de détruire Jésus en tuant tous les petits bébés qui étaient nés à la même époque que Jésus, parce qu'il savait que le Messie allait venir, et il a tout fait pour l'empêcher. Et le diable sait aussi ce qui va se produire dans le futur. Les nations se dresseront contre Jérusalem. Deuxième chose, les nations subiront un jugement au moment où elles voudront détruire Jérusalem et le Temple. Elles subiront un jugement sans pareil. Leur puissance sera détruite par des fléaux indescriptibles. C'est ce qui est raconté dans Zacharie. Ce temps sera celui où les Israélites reconnaîtront Jésus-Christ, le Messie que Dieu leur avait envoyé et qu'ils ont percé. C'est dans Zacharie 12, verset 10. Alors qu'Israël sera au bord de l'extinction, ils crieront vers celui qu'ils ont percé, ils reconnaîtront le Fils de Dieu dans ce Dieu qu'ils ont rejeté. Le Messie reviendra en gloire, s'établira à Jérusalem, où tous les survivants des peuples le verront. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi. En ce temps-là, il n'y aura plus 1000 religions sur terre, il n'y en aura qu'une, puisque tous les hommes verront Jésus-Christ glorifié. Les survivants des nations viendront chaque année en pèlerinage rendre gloire et adorer le Christ à Jérusalem. Elles y apporteront leurs richesses, si bien qu'il n'y aura sur terre aucun lieu plus glorieux que Jérusalem et son temple. C'est ce que dit Agée aussi. Pour autant, le monde ne sera pas encore parfait. C'est cette période que je crois que la Bible appelle le millénium. Il y aura encore des rebelles qui refuseront de se soumettre, d'adorer le Christ, puisqu'il est dit dans Zacharie, « Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. » Ce ne sera pas encore le ciel, mais le Christ sera vu et connu de tous. Une troisième chose que Agée annonce, c'est à la fin du verset 9, « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » C'est à partir de ce lieu que la paix sera possible pour l'univers tout entier. On voit bien ce besoin de paix qui est partout aujourd'hui. Et bien des hommes essayent de désamorcer les conflits qui sont dans le monde. Mais la Bible dit que la paix ne viendra que par celui qu'elle appelle le prince de la paix, le Messie, dont il est parlé dans Ésaïe 9. Il est parlé d'un fils qui est né, qui apportera la paix. Avant cette paix, il y aura bien des efforts qui seront tentés et même l'Antéchrist réussira pour un temps à mettre la paix, mais ce sera une fausse paix. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut apporter la paix. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet enseignement? Je voudrais qu'on puisse retenir quelque chose pour nous maintenant. Le premier message que Dieu donne pour le peuple et pour les dirigeants, il leur dit « Fortifiez-vous et travaillez, car je suis moi-même avec vous, dit Dieu. » Fortifie-toi, même si les choses sont modestes, même si le temple que vous construisez n'est pas le même que celui du passé. C'est pas là l'important. Je suis avec vous dans ce que vous faites. Et Dieu est avec nous, que l'Église soit grande ou pas, qu'elle soit modeste ou pas. Le projet de Dieu, ce que Dieu fait avec nous, s'inscrit dans un projet dont la finalité est certaine. Nous ne travaillons même pas pour un temple terrestre, nous, mais en vue d'une Jérusalem céleste, la ville de Dieu. Dans le ciel, la Bible dit qu'il n'y a même plus besoin de temple, puisque Dieu habite lui-même au milieu de son peuple. Deuxième enseignement, on va le lire dans Hébreux 12, parce que Hébreux 12 reprend les paroles de Agée. Et ici, c'est sans doute l'application que le Nouveau Testament a voulu nous donner des paroles de Agée. Hébreux 12, versets 25 à 29, on va lire. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel ? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Et ici, c'est la parole qu'on trouve chez Agée. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Il y a trois leçons principales qu'il faut retenir du message d'Agée d'après Hébreux. La première chose, c'est que nous devons prêter attention à celui qui nous parle depuis le ciel, Jésus. Les gens qui n'ont pas écouté les prophètes dans le passé, qui n'ont pas écouté Moïse, qui n'ont pas écouté les prophètes, ont été jugés. Ils n'ont pas pu réchapper. Ils ont terminé en exil. Si nous n'écoutons pas Jésus, nous ne réchapperons pas non plus. Nous devons prendre garde à celui qui nous parle depuis le ciel. Nous sommes soit du côté du Seigneur et nous vivrons la gloire avec lui, soit quand le Seigneur viendra, ce sera le jugement et nous ne serons pas du bon côté. Deuxième chose que l'Épître aux Hébreux nous dit, attache-toi aux réalités qui ne passent pas. Les choses et les réalités de ce monde vont disparaître, elles vont toutes être ébranlées. Tu as reçu un royaume inébranlable, tu es entré dans une... Oui, dans un royaume qui ne passera pas. Attache-toi à ces réalités-là. Garde la foi dans ce royaume comme un trésor précieux. Que ce soit ça qui alimente ta vie, ta vision de la vie, tes pensées. Ce royaume peut tarder, comme c'est écrit dans Habacuc. S'il tarde, attends-le, car la vision est certaine. Et le troisième enseignement que nous donne l'Épître aux Hébreux, c'est « Utilise la grâce que tu as reçue dès maintenant pour lui rendre un culte qui lui est agréable. » Comme je l'ai dit, nous sommes en avance. Dans l'éternité, nous allons rendre un culte à Dieu et à Jésus-Christ, ensemble, tous les rachetés de tous les temps. Mais aujourd'hui déjà, puisque tu vis dans cette foi, rends à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Alors nous sommes bien sûr un lieu de culte, et pour les gens du monde, nous sommes un lieu de culte parmi tant d'autres. Mais nous, nous devons vivre le culte différemment. En fait, dans la perspective de la gloire future, nous rendons déjà, nous sommes en train de témoigner de du Dieu auquel le monde un jour rendra un culte. Nous sommes avec une mission et nous devons lui rendre honneur et gloire par le culte que nous lui rendons aujourd'hui, qui est un témoignage de ce qui va se produire dans le futur. Ce que Jésus a dit à la Samaritaine est aussi vrai pour nous. Ce que Dieu cherche maintenant, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Nous sommes en avance, mais notre vocation première et la plus importante, c'est de dire au monde, nous sommes là pour adorer Dieu et lui rendre la gloire qui lui est due. Parce qu'un jour, vous aussi, vous devrez vous prosterner devant ce Dieu-là. Alors que Dieu nous aide, même si nous sommes modestes, à garder la vision de ce royaume qui vient et à remplir notre vocation, qui est celle d'être des adorateurs du Père en esprit et en vérité, au nom de Jésus-Christ, son Fils. Amen.